ça ferait un bon sujet de philo pour le prochain bac. A-t-on le droit de vendre ce qui est gratuit ? C'est en tout cas le débat qui fait causer en ce moment aux États-Unis, par exemple dans les pages du magazine The Atlantic Monthly. Plus précisément encore, a-t-on le droit de vendre une réservation au restaurant ? Effectivement, le problème des restaurants, c'est que chacun veut y aller à peu près au même moment et tout le monde se rue dans ceux qui sont réputés être les meilleurs. D'où ce qui est perçu comme une règle contre nature par le système américain, donner quelque chose qui pourrait être vendu, donner une réservation alors qu'on pourrait la vendre. Du coup, des sites internet se sont spécialisés dans la revente de réservations de restaurants, quelque chose de bien pratique quand vous êtes procrastineur et que vous souhaitez inviter votre chair et tendre le samedi soir dans un restaurant à la mode. Du coup, de petits malins se font des ronds en effectuant des réservations dans les restos chics, juste dans le but de les vendre. Oui, mais est-ce bien moral de vendre quelque chose que l'on vous a donné, puisque ce qui se paye, jusqu'ici en tout cas, ce sont les repas au restaurant, pas les réservations au restaurant. Ce qui pose problème, c'est que la réservation n'est pas une prestation en tant que telle. Est-ce normal de vouloir, de pouvoir la vendre de manière dissociée du repas qui va avec ? Pour certains, aux États-Unis, tout ce qui peut être acheté doit être vendu. Pour d'autres, c'est au restaurant d'organiser ce commerce. Avec une conséquence possible, bientôt, les restaurants les plus cotés feront payer les réservations. Dans le jargon boursier, on disait déjà « no free lunch », pas de repas gratuit, manière de dire « tout se paye ». Et bien, bientôt, on pourra aussi dire « pas de repas gratuit » et pas de réservation gratuite non plus.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Changer de métier, on en parle ce matin en compagnie tout d'abord d'Hervé Estampes. Bonjour.
Bonjour.
Hervé Estampes, vous êtes directeur général de l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle. Vous nous direz comment se retrouver dans le maquis des formations professionnelles, comment en suivre une. À côté de vous se trouve Pauline Fernet. Bonjour.
Bonjour.
Pauline Fernet, vous étiez avocate et vous avez décidé de devenir éditrice. Vous nous expliquerez comment on devient éditrice. En face de vous, Sophie Denave. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université de Lyon 2 et vous avez publié « Reconstruire sa vie professionnelle, sociologie des bifurcations biographiques aux presses universitaires de France ». Et puis enfin, Damien Zeller, bonjour.
Bonjour.
Damien Zeller, vous êtes aujourd'hui boucher, vous étiez directeur commercial. Comment passe-t-on du poste donc de directeur commercial à celui de boucher ?
Ben, la passion, à mon avis, c'est une volonté de faire des choses très concrètes. Moi, je suis originaire de Corrèze, d'un petit village, Bassignac-le-Bas, dans la vallée de la Dordogne, où vous avez une qualité en termes de production et d'élevage, surtout. Et j'avais la volonté d'avoir un lien, finalement, avec mon coin. Et pour ça, être en bout de chaîne de cette chaîne de la viande. Et j'ai eu l'opportunité de racheter une boucherie il y a 2 ans et surtout de devenir boucher en faisant une formation à l'École nationale supérieure des métiers de la viande et passer en parallèle un CAP.
Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ?
Ah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, un rythme qui est pas du tout le même. Moi j'étais dans les tours de la Défense pendant près de 20 ans de ma vie. Et aujourd'hui, je suis levé à 5h du matin, je vais à Rungis, je suis avec mon équipe de 4 bouchers et ma caissière tous les matins tôt. Tout ça, c'est un bouleversement. Et puis au niveau familial, moi je suis marié, je suis père de 5 enfants. Vous pouvez imaginer que là, il y a un gros, gros bouleversement. Oui.
Et cette vie-là vous plaît assurément plus que la précédente ?
Ah, je suis un homme heureux. Vous pouvez le demander peut-être à ma femme, quoi, vous le demanderez. Je suis heureux, je suis épanoui, je fais quelque chose qui est concret. Je travaille dans un métier qui défend notre savoir-faire français, dans la boucherie. Je défends, par mon petit niveau, notre patrimoine.
Pauline Fernet, vous étiez avocate, vous êtes devenue éditrice. Là aussi, c'est un changement de vie, une bifurcation, puisqu'a priori, être avocat aujourd'hui en France, c'est quasiment l'assurance de trouver du boulot. Éditrice, c'est plus compliqué. Comment avez-vous décidé de passer de l'un à l'autre ?
En fait, ça a été une décision assez rapide. J'ai été avocate pendant un an et j'ai ressenti pendant toute cette année-là une profonde insatisfaction. J'avais le sentiment de passer à côté du milieu professionnel qui était fait pour moi. Je vivais très mal le stress et l'urgence de la profession d'avocat qui sont vraiment inhérents. Je pense que j'ai été confrontée en fait au défaut de vocation. Et ça, on le découvre vraiment qu'en exerçant le métier. Et les 7 ans d'études de droit m'ont pas permis de m'en rendre compte avant. Et j'ai décidé de réagir vite. En fait, j'avais 26 ans. Je me voyais retourner à la fac éventuellement si j'arrivais à décrocher des masters en édition. Et donc j'ai pris une décision radicale. J'ai donné ma démission. J'ai un peu voyagé pour réfléchir un peu sereinement aux options qui s'offraient à moi. Et j'ai présenté des masters d'édition. J'ai été prise. Et donc par équivalence, j'ai fait un an d'études. Je fais un peu de pub de Paris 13 Ville Tanneuse. Et puis voilà, des stages m'ont mené au métier d'éditrice.
Que vous exercez aujourd'hui. Les deux personnes que l'on vient d'entendre sont Sophie Denave, vous qui êtes sociologue, deux exemples de personnes qui ont décidé de changer de métier par choix. Elles avaient toutes les deux du boulot avant, mais elles ont décidé de faire un autre métier qui leur convienne mieux. Il y a aussi évidemment des gens qui décident de changer de métier parce que dans leur branche, eh bien, c'est compliqué de trouver du boulot.
Alors effectivement, on peut distinguer les reconversions professionnelles selon le degré de choix, le degré de contrainte. Il y a des contraintes dans tous les cheminements de toute façon. Je pense que même dans les deux histoires de vie, à mon avis, il y a un moment, il y a des choses qui font que ça ne plaît plus et ça peut être des contraintes économiques, une organisation du travail qui va détériorer les conditions qui vont faire que c'est de plus en plus dur de poursuivre dans sa voie professionnelle et qu'ils vont quand même pousser à sortir, à avoir envie de changer. Donc des contraintes, il y en a de partout. Il y en a plus, bien sûr, en bas de l'échelle sociale, hein, chez les personnes les moins diplômés qui occupent plutôt des postes subalternes et qui sont très très contraints de changer de métier. Et ça, c'est vraiment lié plutôt au contrat de travail, hein, les contrats de travail, les CDD qui sont de plus en plus courts et qui nous contraignent, hein, de passer d'un métier à un autre.
À partir des études que vous avez menées, Sophie Denave, on va voir quels sont les moments qui sont peut-être les plus propices à changer de métier, quels sont ceux qui sont aujourd'hui les mieux armés à ces mutations professionnelles, car de plus en plus, on nous incite à devenir souples et évolutifs dans nos existences professionnelles. On va voir si tout cela se vérifie dans les faits. Tout de suite après, Dick Annegarn, Taxi, un disque choisi par Thierry Dupin avec Olivier Betta à la réalisation.
Service public, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Taxi. Taxi. Dans mon agenda, j'ai mis 2 ou 3 semaines. Voyage avec amis. Nous étions déjà pour une presqu'île lointaine. Parti comme promis. Taxi. J'attends le taxi dans le fin fond de la Finlande, assis seul sur un champignon. J'attends le taxi, taxi. Dans ce sauna, il y avait toi et moi et ta chaude Sarah. Je n'y voyais pas trio ni entre chats, une danse que je ne danse pas. Taxi, j'attends le taxi dans le fin fond de la Finlande. Sarah, Sarah, Sarah Bond. Taxi, taxi. En face, devant de l'amitié, un vent qui souffle corse, un lac de glace, une femme est au milieu, et moi je suis de toi. Taxi, j'attends le taxi. Dans le fin fond de la Finlande, rien de plus je ne demande. Taxi, 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 j'attends le taxi, taxi, taxi. Taxi, j'attends le taxi. Taxi, taxi.
Service public sur France Inter, changer de métier. On en parle en compagnie de la sociologue Sophie Denave qui publie Reconstruire sa vie professionnelle. Pauline Fernet qui était avocate, qui est devenue éditrice. Damien Zeller qui était directeur commercial, il est devenu boucher. Hervé Estampe qui est directeur général de l'association pour la formation professionnelle. Alors vous Damien, quand vous êtes devenu boucher, bah ça vous a obligé évidemment à apprendre les techniques de boucherie. C'était compliqué, c'est un métier avec un coût à l'entrée assez élevé puisqu'il faut apprendre le métier.
Oui, tout à fait. C'est un travail avant tout de technicien. C'est-à-dire il faut avoir une bonne connaissance d'une anatomie d'une bête et puis les techniques pour pouvoir la désosser. C'est pas en un an qu'on devient boucher, c'est sur plusieurs années. Pour mon cas, moi j'ai suivi à l'école nationale supérieure des métiers de la viande une formation. J'ai eu un CQP à l'issue d'un an de formation. Et j'ai passé également un CAP en candidat libre que j'ai eu, un CAP de boucher. Et ensuite, c'est en boutique qu'on se perfectionne tous les jours.
Ça veut dire que vous avez fait des bêtises au début ?
Ah, j'ai fait certainement quelques bêtises.
Vous avez fait ?
On désosse pas forcément toujours très bien, mais ensuite, on a heureusement des maîtres d'apprentissage, des professeurs qui sont là pour recadrer. Et ensuite, on fait des choses merveilleuses que vous pouvez retrouver chez moi à la boucherie Godin à Versailles.
Je fais un peu de pub parce que c'est votre nouveau métier. Hervé Estampe, vous dirigez l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle. Lorsque l'on se dit qu'on veut changer de métier, bah, évidemment, on va plutôt vers la formation professionnelle. Comment se retrouver dans le maquis, justement, des formations professionnelles?
Oui, avant d'aborder ce point, je voudrais revenir sur ce qu'a dit mon collègue Boucher. C'est qu'il a dit le mot métier. C'est-à-dire qu'on a appris un métier. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé de travail, il a appris un nouveau métier. Donc, il a parlé de transmission, de compagnon, de maître. Vous voyez, c'est ça qui vous garantit un emploi durable dans notre société d'aujourd'hui. Et c'est à distinguer de parcours où les gens enchaînent des petits boulots, sont finalement très interchangeables et finalement ne se reconnaissent pas dans leur travail. Et donc on a là un moteur de changement, un moteur pour pouvoir se dire « enfin, je vais avoir un métier et donc je vais être reconnu comme un professionnel ». Donc, et ça, effectivement, tous les gens aujourd'hui ont bien compris qu'on va être obligé, en raison des mutations économiques, de changer de travail. On peut pas faire 50 ans le même métier aujourd'hui, l'économie nous pousse à évoluer. Et donc, effectivement, la formation professionnelle est un enjeu essentiel, est un investissement essentiel. Alors, vous l'avez dit, c'est un maquis. Alors bon, effectivement, si on veut rentrer dans les méandres, c'est très compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes sans emploi, vous allez à Pôle emploi. À Pôle emploi, on va vous garantir que votre formation sera entièrement financée. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à se faire prescrire la bonne, avoir son propre projet. Et ensuite, la plupart des temps, vous viendrez chez moi, à l'AFPA, l'association pour la formation professionnelle des adultes, qui est le numéro 1 de la formation en Europe, où nous formons 150 000 stagiaires par an et où on va vous attribuer un titre, donc un métier, donc un diplôme qui vous permettra d'exercer durablement.
C'est ça justement qui parfois pose problème lorsqu'on suit une formation Hervé Estampe. On veut être sûr que cette formation débouche sur un métier, comme vous le dites, c'est-à-dire pas seulement un ensemble de connaissances, c'est très bien les connaissances, mais si ses connaissances ne débouchent pas sur un métier, c'est pas génial dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Comment avoir des certitudes?
Eh bien, mon collègue l'a dit, j'ai obtenu un CQP. Un CQP, un CCP, un CAP, un titre du ministère. Ce sont des diplômes, des choses qui révèlent à vos employeurs potentiels que vous avez le niveau pour exercer. Et donc, toutes les formations, si elles sont qualifiantes, elles doivent déboucher sur un diplôme. Et donc, c'est celle-ci qu'il faut privilégier. D'ailleurs, c'est ce que le gouvernement a décidé de faire avec la réforme de la formation professionnelle, intervenue l'an dernier, pour justement mettre l'accent sur ces formations-là qui permettent de retrouver durablement du travail, qui sont à distinguer de petites formations d'une dizaine d'heures où on vous apprend à faire votre bureau feng shui, à mieux cultiver votre jardin ou à poser les étagères chez vous en famille, ce qui est tout à fait honorable.
Et absolument, surtout pour les étagères. Ouais. C'est pas évident de poser des étagères droites. François nous appelle de Dinard. Bonjour François.
Bonjour.
Nous vous écoutons, François. Nous écoutons votre question, votre témoignage.
Alors, c'est pour moi un témoignage. J'ai quitté l'école très très tôt, en troisième. Et donc, j'ai fait beaucoup de métiers. Je vais essayer d'être court. Au départ, j'étais moniteur de ski puisque jurassien. Suite à ça, j'ai fait une formation AFPA en CFP en charpente bâtiment. J'ai exercé pendant 7 ans dans le bâtiment. Après, j'ai fait une autre formation AFPA pour être constructeur en marine de plaisance. J'ai travaillé 12 ans en Suisse à faire des jouets pour les banquiers. Et puis, dernièrement, j'ai fait capitaine 200 pour être skipper-convoyeur.
Ah, d'accord. Donc vous êtes marin.
Oui, plutôt marin, oui.
C'est pour ça que vous habitez Dinard, d'ailleurs.
Non, je suis pas à Dinard, je suis à Machecoul, mais c'est pas grave. Mes enfants sont à Dinard. Tout ça pour dire que c'est quand même assez extraordinaire. En France, on peut absolument, quand on veut, trouver la formation adaptée à ce qu'on veut faire. Je trouve ça juste génial. Juste un petit bémol, là je me suis monté en société. Et le CFP n'est pas reconnu par l'éducation nationale ni par l'État, à moins que ça ait changé. Mais celui que j'ai passé il y a 15 ans n'était pas reconnu. Mon expert comptable ne voulait pas que je puisse me mettre dans le bâtiment, donc j'avais pas la décennale.
En tout cas, alors ça c'est un témoignage qui fait réagir dans le studio. Sophie Denave, est-ce qu'on est bien en France, comme le dit effectivement François, est-ce qu'on est effectivement en possibilité en France de trouver une formation? Est-ce que les mutations professionnelles sont aussi faciles que ce qui vient d'être dit?
Non, malheureusement, moi je me suis aperçue par le biais de mon enquête qu'il était quand même pas évident du tout de changer de trajectoire. Alors aujourd'hui on dit que les gens sont très mobiles, que la mobilité professionnelle augmente, c'est vrai, mais elle est essentiellement constituée par des glissements entre des domaines très proches, qui ne demandent pas justement de repasser par une formation. Par exemple, vous êtes prof de français et vous allez travailler dans l'édition. Vous allez pouvoir vous appuyer sur des compétences déjà acquises. Pour des personnes qui veulent vraiment radicalement changer, prendre un virage, un petit peu comme Damien, qui est devenu, donc qui est passé de directeur commercial à boucher, je trouve cette trajectoire particulièrement intéressante et exceptionnel, c'est-à-dire que statistiquement, elle est assez rare. Il y a des métiers qu'il est très très difficile en fait d'intégrer en cours de seconde carrière. Et puis, il faut avoir les moyens, il faut trouver des ressources pour payer une formation et notamment une formation de longue durée.
Damien,
oui, moi, je réagis sur un point. Effectivement, la formation, c'est extrêmement important.
Vous étiez directeur commercial, vous êtes devenu boucher.
Exactement. En revanche, je pense qu'il faut trouver aussi l'activité où il y a un potentiel. Parce que si c'est pour travailler dans une activité qui est sinistrée, la boucherie, typiquement, c'est une activité où il y a vraiment un potentiel important. La boucherie, je parle bien de la boucherie traditionnelle, ce que je fais aujourd'hui. Et là, je pense que c'est un point quand même extrêmement important. Parce que se former pour se former... Il y en a beaucoup qui le font, mais si c'est pour ensuite tourner en boucle, c'est pas la bonne chose.
Hervé Estambe, est-ce qu'à l'AFPA, on peut se former pour se former? Autrement dit, est-ce qu'il y a des formations qui, en réalité, ne débouchent pas sur des boulots?
Surtout pas, et la chaîne aurait bien mal fonctionné. Et donc, ce qui veut dire que ce que fait Pôle emploi, ce que fait l'AFPA, c'est d'identifier effectivement, à partir des besoins dans le bassin d'emploi, quelles sont les formations qu'on va vous financer. Et je suis pas d'accord avec ce qu'a dit ma collègue, pour avec se Sophie faire financer, voilà, on peut trouver des financements financement extrêmement facilement et ça ne vous coûte rien.
Je vais répondre. Des financements pour des formations courtes, oui, mais si vous avez un CAP et demain vous voulez devenir prof, qu'il faut reprendre, passer le bac, refaire une licence, un master, vous n'avez pas de financement en France aujourd'hui. Donc le diplôme initial, en fait, reste quand même très déterminant sur toute la vie.
Et c'est ce que vous dites, en fait, dans vos études, dans l'étude que vous avez menée et que vous avez publiée sous le titre « Reconstruire sa vie professionnelle », c'est-à-dire que c'est plus facile de changer de boulot quand on est très diplômé, voilà. Hélas.
Voilà, il y a des conditions de possibilité qui favorisent quand même certains changements.
Mais alors, il y a quand même un bémol là-dedans, c'est-à-dire que lorsqu'on veut travailler dans un domaine proche du sien, bah, évidemment, c'est plus facile. Et à la fois, on a tous des atouts. Alors vous, votre cas, Pauline Fernet, vous expliquez que lorsque vous vous êtes lancée dans l'édition, le fait d'avoir fait l'école du barreau, d'être avocate, même s'il n'y a pas de lien évident entre le fait d'être avocate et de bosser dans l'édition, bah, ça a quand même été un outil facilitateur.
Très. Et encore plus que ce que j'aurais pu imaginer. En fait, quand j'ai présenté les masters d'édition, je pensais que le fait d'être juriste serait un frein, c'est-à-dire qu'on me dirait que je n'avais absolument rien à faire dans le milieu littéraire. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée. Je pense que le parcours de droit et d'un avocat sont peut-être quelque chose d'assez impressionnant dans un domaine qui est autre. Et donc du coup, j'ai été reçue dans tous ces masters. Et en fait, c'est quand même deux milieux qui sont assez connexes finalement. Il y a du droit dans l'édition et inversement. Donc c'était une passerelle relativement évidente.
Donc on a peut-être tous des atouts en soi pour opérer ces reconversions professionnelles. Ronan nous appelle de Nantes. Bonjour Ronan.
Oui, bonjour.
Nous écoutons votre question.
Eh bien voilà, en fait, c'est plus une réaction à ce qu'a dit le monsieur de l'AFPA tout à l'heure sur le fait qu'il était très simple de se tourner vers Pôle emploi pour et que Pôle emploi garantissait en fait un financement pour les formations. C'est pas du tout le cas en fait. Je vis ça actuellement au travers de ma compagne en fait qui essaye de se reconvertir professionnellement et qui a trouvé une formation et un chemin par le biais de Pôle emploi qui lui avait fait faire une formation pour trouver là où elle pouvait se reconvertir. Et maintenant, Pôle emploi lui dit qu'il n'a pas les moyens qu'il n'y a aucun système pour financer sa formation, qu'éventuellement il y aurait la région. Or, la région ne finance plus cette formation. Elle en finance d'autres, mais plus celle-là. C'est un petit peu la loterie.
Bah, le maquis des formations, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait où s'adresser, comment être financé. C'est typiquement la question donc, qui est posée par la compagne de Ronan qui vient de nous appeler, Hervé Estampe. Donc en théorie, bon, bah, tout ça est très beau, ça fonctionne bien. Et puis,
c'est là le vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dispositifs, tellement de guichets. C'est ça qui fait que les gens n'y comprennent plus rien. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de développer ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. Nous, à l'AFPA, nous organisons des journées portes ouvertes régulièrement. La prochaine est d'ailleurs le 4 juin, je vous la signale, où vous venez, vous découvrez un métier et après, derrière, vous dites, bah, tiens, je ferais bien ça. Je voudrais vous citer un exemple que je trouve extraordinaire. C'est une Marseillaise. Alors, moi, je suis Marseillais, je fais la promotion pour les Marseillaises.
Marseillaise, c'est pas un métier. Hein.
Voilà, c'est pas un métier, mais c'est une qualité, on va dire. Et donc, qui était maître-nageur, sauveteur, enfin bref, 40 ans, le petit boulot, enfin, vous voyez ce que c'est que maître-nageur. Et elle est devenue soudeuse. Elle a appris à souder. Et maintenant, elle travaille pour Areva. Elle est soudeuse sous-marine. Voyez, et donc c'est un métier d'une technicité folle et elle a changé de métier à 40 ans.
Et à la fois, on est dans des boulots connexes, puisque ce que vous expliquiez, Sophie Denave, bien souvent, c'est pas une critique, hein, c'est également une bonne chose de voir ce que l'on sait faire et à partir de là, de pouvoir évoluer. Votre réaction par rapport à la question de l'auditeur Ronan sur la faculté de faire un point en matière de formation et d'en trouver une qui convienne à votre projet professionnel?
Là aussi, il faudrait avoir l'opportunité de pouvoir s'arrêter un moment, de réfléchir, d'aller voir des gens, les rencontrer. Et ça, on peut le faire si on est au chômage, si on a un peu des ressources. Et notamment, effectivement, il y a l'aide, des aides étatiques, hein. Il y a des dispositifs, il y a les fonds GESIF, etc., qui permettent vraiment de faire un certain nombre de choses. Mais c'est encore insuffisant. Et souvent, les personnes que j'ai rencontrées bénéficient de l'aide de leurs conjoints, de leurs parents, etc. Donc, il y a quand même un recours assez important et, à mon sens, trop important à la sphère privée. C'est-à-dire que les gens qui n'en bénéficient pas, non, finalement, sont vraiment vraiment tenus par l'état des dispositifs étatiques et qui sont encore largement insuffisants à mon sens.
Damien Zeller, par exemple, le fait d'avoir été directeur commercial avant, ça vous aide dans votre métier de boucher, pas à faire les saucisses, mais ça vous aide quand même, j'imagine, beaucoup au quotidien.
Ben oui, puisque je suis chef d'entreprise, donc effectivement, mes 20 ans d'expérience dans une grosse structure m'ont permis en fait d'acquérir une façon de gérer les choses, de donc ça évidemment ça m'aide, et d'ailleurs ça apporte un plus à la profession. Je dirais que je ne suis pas boucher d'origine, on va dire ça, mais à côté de ça, je peux apporter d'autres idées. Typiquement, moi, je travaille avec une structure sur le net, avec une société d'e-commerce, pour faire pour vendre une partie de ma viande effectivement par le net, hein, qui s'appelle
c'est une grosse tendance actuellement.
Le panier des familles, effectivement, qui est une structure qui est aussi bien sur Versailles que sur Asnières et qui me permet de vendre mes produits par internet.
Nous avons Jérôme au standard. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Eh ben on vous écoute Jérôme.
Alors moi je vous apporte un témoignage, c'est un petit peu l'inverse de Damien, puisque quand j'étais jeune, j'ai passé un BTS agroalimentaire en industrie laitière. J'ai ensuite exercé pendant une dizaine d'années au Kenya, donc dans la production laitière, un peu, j'étais fermier. Mmh. Et puis, suite à des événements politiques dans le pays, je suis rentré en France. Et en France, c'est difficile d'avoir le même poste qu'à l'étranger, mmh, puisqu'il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Donc, j'ai décidé de faire avec du Pôle emploi un bilan de compétences. Mmh. Et ensuite, j'ai passé un concours, et puis j'ai démarré l'école d'infirmier, et je suis maintenant infirmier. Donc mon témoignage, c'était pour encourager tous ceux qui désirent changer de métier. La France offre plein de possibilités, mais il faut aussi se donner les moyens d'agir et de faire le changement qui coûte au point de vue investissement personnel et qui peut avoir des répercussions financières, mais ça vaut le coup, le jeu en vaut la chandelle.
Et vous êtes content aujourd'hui ?
Je suis épanoui dans mon travail tous les jours quand je vais voir les gens.
Et Hervé Estampe de l'AFPA est épanoui en vous écoutant, Jérôme, en écoutant votre témoignage.
Oui, comme disait Damien, vous pouvez également le demander à ma femme. très épanoui. Il y a un truc très important, c'est que 15% de nos stagiaires à l'AFPA ont plus de 50 ans. Ce qui veut dire qu'on peut se reconvertir à tout âge. Et il y a un autre chiffre que je voulais vous donner, c'est qu'il y a seulement un tiers de nos stagiaires qui sont des femmes. Et donc, mesdames, je voulais vous passer le message, désinhibez-vous. Beaucoup de métiers techniques ont besoin de vous, venez vous former.
Sophie Denave.
Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec les grandes tendances, c'est-à-dire que plus on avance en âge et moins les reconversions sont nombreuses. Plus on est jeune, plus c'est facile, hein, parce qu'on n'est pas pris aussi dans des relations familiales. Et également les femmes, alors c'est en train de se réduire l'écart, il y a un écart entre hommes et femmes, hein. Les hommes se reconvertissent davantage que les femmes, bénéficient davantage des formations professionnelles en cours d'emploi, et il faudrait effectivement qu'on arrive un petit peu à l'égalité à ce niveau-là avec les femmes, et autant accès aux formations, et qu'elles en tirent le même bénéfice, et ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui.
Eh bien on va entendre le témoignage d'une femme reporter qui a tenté de devenir fleuriste, Raphaël Mantou, tout de suite après Marianne Faithfull, Working Class Hero.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Be
walking peasants as far as I can see.
Service public sur France Inter, changer de métier. Et si c'était quelque chose que vous entrepreniez, Anita est au standard. Elle nous appelle depuis la Bretagne. Bonjour Anita.
Oui, bonjour.
Eh bien, nous vous écoutons, on écoute votre question.
C'était simplement pour dire que les formations offertes par Pôle emploi sur une durée de 6 mois, c'était de l'argent dépensé inutilement, parce qu'en 6 mois, on n'apprend pas un métier. C'est impossible. Quand il faut 3 ans ou minimum 2 ans... on voit autour de nous, les plombiers sont pas compétents, les entrepreneurs veulent pas les prendre parce que 6 mois, c'est un débutant, faut le rémunérer comme un vrai salarié. Il y en a qui se mettent en auto-entrepreneur et ben c'est nul quoi.
Vous employez des plombiers,
une vraie formation sur au minimum 2 ans et que la personne ait un métier bien dans les mains.
Mais vous employez des plombiers, vous travaillez avec des plombiers, vous avez suivi une formation.
Ça m'arrive, hein, j'en ai besoin comme tout le monde. Mais on fait faire des travaux chez soi. L'année dernière, j'ai eu toute l'isolation. C'est un métier, ça, de savoir faire l'isolation.
C'est un métier, et effectivement, alors là, on ne vous contredira pas, Anita. C'est un métier, et c'est un métier que l'on peut apprendre en 6 mois ou en plus longtemps. Effectivement, Hervé Estampe, il y a des métiers techniques lorsqu'on veut devenir plombier. Moi, par exemple, je pense qu'il faudrait vraiment beaucoup plus de 6 mois pour devenir plombier.
Alors, ce que dit madame n'est pas faux. Si vous n'avez aucune aptitude, c'est un peu plus long. Mais après, c'est comme...
Vous voulez dire que je n'ai pas d'aptitude.
Et voilà, effectivement, je vous conseillerais des choses peut-être différentes. Mais déjà, 6 mois, c'est considérable. Et comme l'a dit Damien tout à l'heure, vous ne savez pas tout. Vous sortez l'école, vous sortez le diplôme. Après, il a toute une expertise. Vous fréquentez d'autres personnes, vous faites quelques bêtises, mais au moins vous avez un diplôme et avec ça vous avez le bagage. Et donc 6 mois, se former 6 mois, c'est déjà un effort considérable.
Et puis il faut la passion.
Effectivement avoir envie de faire ce métier. Bonjour Raphaël Mantoux.
Bonjour Guillaume.
Vous avez eu envie de devenir fleuriste.
Oui, pourquoi pas fleuriste. Mais avant de me lancer dans cette reconversion, le mieux c'est de rencontrer des personnes qui sont déjà fleuristes. Et l'entreprise Job en boîte propose de tester pendant quelques heures le job de ses rêves, histoire de ne pas rater cette fameuse reconversion. Et en visitant quelques profils sur le site, je tombe sur David, l'ancien communicant devenu fleuriste. Il propose que je l'observe pendant une après-midi pour me raconter son métier. Son magasin est dans le nord de Paris et s'appelle « Les pieds dans l'herbe ». Pivoine, Coquelicot et Jonquille colorent cette échoppe paisible. Je vous propose d'écouter quelques minutes de printemps à l'intérieur de la reconversion de David.
Ici, on est dans ma petite jungle, ma petite boutique, les pieds dans l'herbe. Autour de nous, il y a des plantes, des fleurs, de la mousse, des bulbes. On entend des gongs. Parce que comme je fabrique du bonheur, ça m'aide en fait. Ça contribue à détendre les visiteurs de la boutique.
Qu'est-ce que vous me conseillez pour devenir fleuriste ?
Pour devenir fleuriste, il faut que tu en parles à ton mec. Tu te lèves la nuit, tu travailles beaucoup, t'es jamais là. Tu te lèves la nuit pour aller acheter les fleurs et les plantes à Rungis. Il faut aimer les gens. Moi, j'accueille mes clients en leur demandant ce qui leur ferait plaisir.
On peut faire un atelier pratique ?
Allez, on fait un bouquet.
Alors bon, déjà, ça demande... Il faut être un peu créatif.
Les fleurs sont toutes propres, toutes nettoyées, parce que quand tu les achètes, elles ont des épines, elles ont des feuilles partout. Tu les effeuilles. Alors là, ce sont des pavots et je les aide à s'ouvrir, en fait. Je retire la petite pellicule verte qui entoure les pétales. J'aime pas trop quand c'est les grandes fêtes et tout, parce que il y a la queue, les gens sont un petit peu plus speed et c'est moins détendu.
Vous, avant, vous n'étiez pas fleuriste.
Avant, j'étais méchant. Je travaillais dans une agence de communication éditoriale. J'ai travaillé pendant 15 ans dans la communication éditoriale. J'ai choisi de devenir fleuriste parce que j'avais un petit peu le sentiment de me perdre, c'est-à-dire de devenir quelqu'un d'autre, à force de renoncement. Là, j'ai pas vraiment l'impression de travailler, en fait. C'est ma deuxième maison. Je venais juste d'ouvrir, il y a une dame qui m'a dit, dans le quartier, on a plein de marchands de fleurs et vous êtes un vrai fleuriste.
C'est quoi un vrai fleuriste ?
Un vrai fleuriste, c'est quelqu'un qui met de l'attention dans son geste. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres, à ses clients.
Et vous avez fait une formation qui a duré combien de temps ?
J'ai fait une formation, j'ai travaillé 9 mois avec une vieille fleuriste à Carréâtre. J'en garde que de bons souvenirs parce que j'ai appris plein de choses et j'y arriverais pas aussi bien aujourd'hui si j'avais pas travaillé avec elle pendant presque un an. Et puis j'ai fait l'école des fleuristes de Paris. J'ai fait une formation de reconversion professionnelle qui permet de présenter le CAP en candidat libre.
Alors là, le bouquet, il commence à prendre forme.
Bon, on a beaucoup parlé, du coup, on n'a pas beaucoup avancé, mais...
On va avancer, alors.
Mais on va juste mettre un petit peu de genêt, et puis ce sera terminé. Hein. Un petit feu d'artifice blanc, comme ça, tout autour des fleurs saumon et blanches, comme ça, tu vois, comme un jaillissement. Non, c'est un super métier. C'est un super métier parce que tu passes ton temps à faire du beau, à être au contact, à manipuler des choses merveilleuses. On l'attache, on va pas recouper les tiges du pavot. Voilà.
Et alors, vous gagnez mieux ou moins bien votre vie qu'avant ?
C'est vrai que tu gagnes moins d'argent que, par exemple, quand tu es directeur associé d'une agence de communication. Mais en même temps, comme tu travailles davantage, tu dépenses beaucoup moins d'argent. Moi, j'ai pas trop l'impression d'avoir un niveau de vie différent d'avant, alors que je gagne à peu près, je sais pas, 6 fois moins. Bon, je paye aussi beaucoup moins d'impôts. Mais j'ai pas fait ça pour faire fortune. Si j'avais voulu continuer de gagner de l'argent, je serais resté dans mon boulot d'avant, super bien payé. Tu peux vivre aussi bien avec moins d'argent. Salut Alex.
Donc, cette reconversion de David s'est faite sous le signe de l'apaisement et le site Job en boîte propose de tester le métier de photographe de mariage, professeur de yoga ou encore de toiletteur pour chiens.
Merci Raphaël Mantou. Effectivement, différentes possibilités. La perte d'une partie de ses revenus, c'est également une possibilité malheureusement lorsqu'on change de métier. On se dit que lorsqu'on passe par exemple du métier d'avocat à celui d'éditeur, Pauline Fernet, évidemment on perd une partie de son pouvoir d'achat.
J'ai pas l'impression d'avoir changé de niveau de vie. Je gagne moins bien ma vie que je ne l'aurais gagnée si j'étais restée avocate. Mais dans la mesure où je n'ai été avocate qu'un an, dans un petit cabinet parisien, je ne gagnais pas très bien ma vie et je la gagne de la même façon aujourd'hui.
Mais vos perspectives d'emploi
étaient... Les positions sont moindres. Oui.
Moindre, avec peut-être aussi un facteur de risque qui est plus important. Comment, rétrospectivement, voyez-vous cela ?
En fait, c'est pas une question que je me suis véritablement posée quand je me suis reconvertie, parce que l'enjeu était tellement important pour moi de me sentir bien.
C'est
venu
vital.
En deuxième, et aujourd'hui, finalement, comme je m'en sors plutôt bien, je ne vois pas les choses rétrospectivement, je dis juste que pour l'instant, ça va bien.
Sophie Denave, la notion de risque dans ces cas de mutation professionnelle qui sont des cas de mutation professionnelle choisis lorsqu'on est contraint à faire quelque chose, le risque c'est autre chose, mais lorsqu'on le choisit.
Alors le risque, il est très valorisé aujourd'hui dans la société, dans bon nombre de discours. On nous demande d'être justement courageux, de prendre des risques. Et finalement, on va un peu pointer du doigt celui qui ne prend pas de risques. En fait, mon enquête, elle montre que la plupart des Français sont plutôt en quête de sécurité. Ils veulent bien changer de métier, mais à condition d'avoir un certain nombre de garanties.
Disons que par les temps qui courent, on se dit qu'on comprend pourquoi les gens veulent des garanties dans le domaine. Damien Zeller, vous qui êtes passé de directeur commercial à ce travail aujourd'hui de boucher que vous exercez.
Moi, je trouve que le témoignage là qui est passé est très très vrai. Je ressens exactement la même chose que ce que disait finalement le fleuriste, le nouveau fleuriste. On part sur des choses qui sont différentes d'auparavant, c'est-à-dire que c'est pas finalement l'argent qu'on va gagner qui nous motive, mais en revanche, c'est l'intérêt du boulot. Et ça, c'est quelque chose de très vrai.
Vous avez perdu en pouvoir d'achat.
Oui, j'ai perdu en pouvoir d'achat. Mais comme me dit le fleuriste, on n'a plus beaucoup de temps pour dépenser de l'argent. Et puis surtout, on a une passion qu'on vit. Et c'est le plus important. On a changé autre chose que de métier. C'est aussi dans la tête que ça a changé.
Nous avons Delphine au standard. Bonjour Delphine. Nous avons Karine qui, elle, va répondre. Bonjour Karine.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Karine.
Écoutez, merci d'avoir pris mon appel. Je voulais juste mentionner que dans le cadre d'un changement professionnel, il était aussi possible de s'appuyer sur les plans de licenciement des entreprises. Ça a été mon cas. J'ai travaillé au siège social d'une banque. J'ai fait en sorte de faire partie d'une charrette, entre guillemets. L'entreprise m'a payé un bilan de compétences. Ensuite, j'ai été acceptée en validation des acquis à la Sorbonne Paris 5. J'ai fait un Master 1 en sciences de l'équivalent des sciences de l'éducation. Et tout frais payé par l'entreprise, mon salaire étant pris en charge aussi. Enfin, on continue à me le verser. Et du coup, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et comme ça s'était très bien passé, quand je suis sortie de la Sorbonne, j'ai fait un Master Recherche en sciences du travail et de la société au CNAM Paris. Sur 2 ans, tout en travaillant, en commençant à travailler comme formatrice.
Ah oui, puisqu'il y a effectivement aussi la possibilité de suivre des cours du soir où le CNAM, d'autres organismes offrent cette possibilité, Hervé Estampes, autrement dit, d'entamer un virage professionnel sans couper complètement l'ancien métier pour assurer, disons, une transition plus douce.
Oui, oui, c'est tout à fait possible. Et je voudrais revenir, c'est pas parce qu'on se reconvertit qu'on perd en salaire systématiquement, parce que j'ai entendu 2-3 témoins de cette nature-là. Je vous assure, on peut avoir des petits boulots, pas trop de qualifications, obtenir une vraie qualification et trouver un CDI pérenne où vous êtes extrêmement bien rémunéré. Je vous cite le cas d'un métier qui est mal vendu, qui s'appelle le métier de chaudronnier. Tout le monde pense que c'est des gens dans une caverne, etc. Avec un chaudron, avec une barbe, mais c'est pas vrai. Un chaudronnier, ça fabrique les carcasses, les carlingues d'avions. Et aujourd'hui, je rappelle qu'on vend des Rafales, qu'on vend des Airbus, qui a une vraie compétence et qui a des métiers et de l'employabilité pour 10 ans et on gagne 3 fois le SMIC. Donc, reconversion ne veut pas dire toujours abandon de pouvoir d'achat.
Sophie Denave, utiliser ou en tout cas envisager une transition douce en commençant à réfléchir et surtout à apprendre un nouveau métier tandis que l'on exerce le précédent, est-ce que c'est une solution ?
Je ne sais pas s'il y a une solution. En tous les cas, ça arrive et ça se passe relativement bien dans les personnes auprès des personnes que j'ai rencontrées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des changements qui paraissent extrêmement radicaux. On se dit, mais tiens, cet ingénieur qui devient magicien du jour au lendemain, comment est-ce possible? Et en fait, on se rend compte en discutant avec lui qu'il était déjà magicien, c'est-à-dire qu'il faisait de la magie depuis qu'il était très jeune. Il avait fait un certain nombre de stages. Et du coup, on peut aussi acquérir des compétences professionnelles dans le cadre des loisirs. Donc, il ne faut pas prendre les loisirs comme des activités mineures, un à côté. On peut vraiment mobiliser des ressources très très importantes pour les reconversions. Et ça, je pense qu'il faut effectivement avoir un petit peu ces ouvertures-là en tête, en tous les cas.
Pauline Fernet, c'était votre cas ?
Absolument mon cas. En fait, j'ai un père qui est écrivain, qui a été éditeur, et donc j'avais un héritage paternel fort que j'ai choisi délibérément d'ignorer au moment de mon orientation après le bac. J'avais envie d'être avocate, j'avais envie de faire du droit. Voilà, j'ai fait ça pendant 7 ans et j'ai été rattrapée par cet héritage-là. J'avais une petite sœur qui, elle, y était allée dès le début en faisant du journalisme. Et à ce moment-là, elle était en études. Moi, j'ai repris les miennes et je me suis complètement retrouvée dans ça. Donc, ça ne venait pas du tout de nulle part.
Et vous, Damien Zeller, le mot de la fin ?
Eh bien, non, moi, j'ai pas de famille dans la boucherie. En revanche, comme je vous l'ai indiqué là en début d'émission, moi j'ai des attaches corréziennes avec un contact avec justement le monde de l'élevage. J'ai des amis qui sont là-dedans et donc c'est ça qui m'a motivé. Juste un dernier petit mot, je pense que c'est très très intéressant, c'est pour vos auditeurs, il y a un très très bon blog qui s'appelle Les Nouveaux Audacieux de Corinne Martin.
Absolument.
Qui offre
un certain nombre d'exemples de reconversion professionnelle réussie. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Reconstruire sa vie professionnelle. Sophie Denave, c'est votre ouvrage, Hervé Estampe, l'AFPA, qui offre donc des formations et du conseil. Merci à tous les quatre.
Le rendez-vous du médiateur sur France Inter.
Et le rendez-vous du médiateur avec vous, Bertrand Vanier. Vous n'êtes pas venu seul ce matin.
Je ne suis pas venu seul et je vous dirai dans quelques secondes avec qui je suis venu. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous, Guillaume, qui êtes un amoureux de la publicité sur France Inter, vous allez adorer le thème de cette chronique, l'amour indéfectible de nos auditeurs pour ladite pub. Bon d'accord, je blague, ce n'est pas de l'amour, c'est bien souvent de la haine à l'état pur. Nos auditeurs trouvent qu'il y en a trop, qu'elle est mal faite, qu'elle ressemble trop à celle qui est diffusée par nos concurrents du privé, et même que Radio France ne respecte pas la loi. Extrait de messages reçus. Je sais les soucis financiers de Radio France. Est-ce pour cela que les messages se suivent par 4 ou 5, dit Laurent. Faites en sorte que cessent les campagnes commerciales, demande Gilles, qui n'en peut plus des messages d'un opticien. Vos offres commerciales ne contreviennent-elles pas à la loi sur l'audiovisuel public, demande Michel. D'autres s'en prennent au contenu des pubs. Quel sexisme cette campagne pour une assurance conducteur s'emporte Martine, Valérie ou encore Geneviève et Alice. Quant à Elisabeth, elle s'étonne plus largement du côté caricatural de certaines publicités tant elles sont macho. Je termine ce florilège avec Pascal, je vais être franc, j'ai censuré une partie du texte. Vous allez nous faire longtemps avec vos messages de etc, etc. Alors pour tenter de mettre les choses au point, j'ai invité le directeur de la régie publicitaire à Radio France, Pascal Giraudias, pas le même Pascal, évidemment. Bonjour Pascal, donc.
Bonjour Bertrand.
Quelques données d'abord. Pascal. Combien de minutes de pub chaque jour sur France Inter?
Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais simplement faire un petit point, parce qu'on parle des auditeurs. Je rappelle que France Inter, c'est tous les jours 5 700 000 auditeurs.
Et que je ne reçois pas 5 700 000 messages. Vous avez raison.
Quelques auditeurs qui n'aiment pas la publicité sur les antennes de Radio France. Le temps de publicité donc, est limité par décret et le temps autorisé est de 30 minutes en moyenne annuelle
par jour sur France
et par station.
Occupe-t-on tout l'espace utilisé?
Non, ça dépend des antennes, mais globalement, nous sommes, en tout cas sur France Inter, à peu près à la moitié du temps.
Le cahier des charges définit les campagnes que nous pouvons diffuser. Certains auditeurs pensent que nous ne respectons plus la loi, c'est-à-dire que nous sortons du cadre autorisé par le cahier des charges ou la loi.
L'esprit des textes est de dire que la publicité autorisée sur les antennes de Radio France doit être de la publicité collective, d'intérêt général, et public et parapublic. Donc nous restons dans ces typologies d'annonceurs.
Mais c'est un petit peu flou quand même. Les frontières restent un petit peu floues, ce qui vous arrange plutôt, je crois, Pascal. Je reçois de nombreuses critiques sur la tonalité des messages. Est-ce que nous sommes responsables de leur réalisation?
Alors, on est responsable de la réalisation de certains messages, mais il faut dire que pour les antennes nationales en tout cas, la majorité des messages proviennent donc des agences de publicité de nos annonceurs.
Et donc nous vérifions simplement que la loi est respectée.
Alors, on vérifie effectivement que le cahier des charges soit respecté. Après, sur le côté artistique, puisqu'il y a un directeur artistique qui travaille sur la campagne, on n'intervient pas effectivement sur cette création.
Ce qui veut dire que la campagne avec les deux rigolos, comme disent de nombreux auditeurs, va se poursuivre?
Alors, vu du côté régie publicitaire, on adore les campagnes, la campagne incriminée. Oui, effectivement, cette campagne-là va continuer sur les antennes.
À combien se montent les recettes de publicité à Radio France, cette fois-ci pas de la France Inter, sur l'ensemble?
Aujourd'hui, 40 millions d'euros.
Alors, Fleur Pellerin a dit hier chez nos confrères d'Europe 1 qu'elle était d'accord avec un élargissement souhaité par Mathieu Gallet de la liste des annonceurs autorisés. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Élargissement, c'est du type d'annonceur, élargissement du nombre de minutes diffusées, élargissement du coût de l'argent récupéré? Alors,
ça veut dire globalement qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de diversité d'annonceurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un périmètre restreint, donc je vous ai cité tout à l'heure, et on a besoin d'avoir plus de diversité d'annonceurs. Ça joue même d'ailleurs sur le confort d'écoute pour les auditeurs, puisque globalement, on a des messages de publicité qui sont assez anxiogènes, assurez-vous, protégez-vous, faites un don, etc. Donc avoir un peu plus de diversité des annonceurs différents permettrait de temps en temps d'avoir des écrans un peu plus légers.
Et ça ne va pas calmer ceux qui pensent que l'antenne de France Inter dans le domaine de la publicité commence à ressembler de plus en plus à l'antenne d'Europe 1 ou d'RTL, par exemple.
Je pense qu'on en est loin. On parlait tout à l'heure de, même si on reste sur le temps inscrit dans le cahier des charges qui est 30 minutes, je pense que le temps de publicité sur les radios privées est largement supérieur, 4 à 5 fois supérieur au nôtre.
Élargir, c'est élargir le type d'annonceur autorisé. Est-ce que c'est potentiellement élargir ou agrandir le nombre de minutes de diffusion de pub sur l'antenne de France Inter?
Mathieu Gallet est très clair à ce sujet. Le temps de pub resterait inchangé avec cette ouverture.
Voilà qui rassurera. Guillaume, merci. Pascal Giraudias, il faut laisser la place à la pub maintenant.
Merci Bertrand Vanier. D'abord de la publicité pour la bande originale. Daniel Morin et Chris Esquer sont là. Bonjour Daniel.
Bonjour Chris. Comment ça va? On a été
dénoncé. Très bien, alors vous avez de la publicité, vous avez un écran de publicité, on parlait des deux bizarres... Quel mot vous avez employé Bertrand tout à l'heure? Mais c'était pas de Chris Esquer et de Daniel Morin dont il s'agissait évidemment.
Ah bon?
Non, il s'agissait, vous savez, ces deux personnes qui font de la publicité
les deux rigolos,
mutuelle
les deux rigolos,
sur l'antenne de France Inter.
Non, ça n'est pas vous.
Justement, on voudrait passer un message. La publicité, on trouve qu'il n'y en a pas assez, parce que s'il y en avait un peu plus, on serait beaucoup mieux payé.
Voilà.
Merci beaucoup pour ce message.
Non, je n'ai pas fini. J'ai envie de la publicité.
J'enregistre la demande d'augmentation.
Vous ne nous demandez pas qui on a dans l'émission aujourd'hui?
Dites-le nous, par exemple, si vous voulez faire votre publicité.
On reçoit Pierre Bellemare.
Un génie. Pierre Bellemare, qui va être là avec nous, qui va nous raconter des histoires extraordinaires, des histoires de trahison.
On vous écoute tout de suite après le flash. À tout à l'heure, tous les deux.